Philosophe, une série de France Inter pour comprendre, découvrir ces grandes figures, ces révolutionnaires dont les idées, les concepts ont changé la manière de voir et vivre le monde. Platon. Né en 427 avant Jésus-Christ, il est mort à l'âge de 80 ans en 347 à Athènes. Platon qui naît juste après la mort du plus grand des Athéniens, Périclès, contemporain de Socrate qui fut son maître et d'Aristote qui fut son élève. Platon avec un philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne, directeur du département de philosophie à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Bonjour Dimitri Elmure.
Bonjour Ali Bedou.
Merci infiniment de nous accompagner dans la compréhension de ce Platon, le Platon révolutionnaire, le Platon inventeur de concepts. Toute l'histoire de la philosophie n'est qu'une suite de notes de bas de page au dialogue de Platon. Ces mots, on les doit au philosophe anglais Whitehead. En quoi Platon est-il révolutionnaire, Dimitri Elmure ?
Alors, la réponse à cette question, ça pourrait prendre toute l'émission, mais disons, pour être un peu synthétique, que d'abord, en fait, il est révolutionnaire au sens où c'est celui qui invente la discipline pour laquelle on est là, à savoir la philosophie, qui lui donne son nom. Même s'il y a quelques occurrences avant lui, mais c'est lui qui la constitue. Il lui donne son nom, il la constitue comme un certain type d'exigence, un certain désir de la vérité. Donc ça, c'est quand même, je dis, c'est révolutionnaire en ce sens-là, au sens de l'invention radicale. Et puis, deux autres traits, un peu comme ça, qui le caractérisent comme révolutionnaire, je dirais, c'est aussi un génial inventeur de concepts.
Oui.
Et je vais en donner un que tout le monde connaît, c'est le concept d'idée. Ben voilà, les idées, on s'en sert tous les jours. Le mot existait avant lui, bien sûr, mais celui qui a véritablement pensé ce que c'est qu'une idée et le fait qu'elle puisse exister en dehors de l'espace et en dehors du temps, et pourtant exister pleinement, ça c'est quand même une révolution totale par rapport à Parménide, par rapport à Héraclite, par rapport aux grands prédécesseurs de Platon. Cette idée, justement, que l'existence de l'idée est une existence non spatiale, non temporelle, et que pourtant c'est ce qui existe le plus pleinement.
Quelque chose de fondamental, c'est le dialogue. C'est la forme du dialogue qu'emprunte le plus souvent Platon. Il en a écrit, ou il en est l'auteur d'une trentaine, Phèdre, La République, Le Banquet, Tête. La plupart des dialogues mettent en scène une rencontre avec Socrate. Socrate est un ou plusieurs interlocuteurs. Pourquoi est-ce que philosopher, c'est dialoguer, et pourquoi est-ce qu'au fond, philosopher, Dimitri Elmure, c'est rencontrer Socrate ?
Je pense que philosopher, c'est exactement ça. C'était vrai pour Platon, c'est vrai pour nous. Pour toute personne qui commence la philosophie. Aujourd'hui encore, en première ou en terminale. En fait, sa rencontre avec la philosophie, ça sera une rencontre avec Socrate. Et de comprendre ce que ça veut dire que de rencontrer Socrate. Ce que je trouve fascinant, c'est que cette rencontre-là, elle a eu lieu pour Platon. Et qu'en fait, la naissance de la philosophie, c'est l'effet de cette rencontre. Pourquoi Platon écrit des dialogues? Alors ça, c'est une très très vaste question. Il n'est pas du tout le seul à en écrire. Mais dans la manière qu'il a justement de présenter la recherche philosophique comme une discussion avec Socrate, en fait, il rejoue constamment dans chaque dialogue l'espèce d'événement inaugural, fondamental, cataclysmique à mon avis pour lui, qui a été la rencontre avec Socrate.
Alors expliquez-nous pourquoi cette rencontre est si fondamentale et pourquoi elle demeure d'actualité. Quelle est inactuelle au sens où elle traverse les époques et elle est d'actualité parce que philosopher, c'est rencontrer Socrate. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là ?
Alors, pour répondre à ça, je vous raconte juste une petite histoire. C'est ce qu'on pense être la rencontre entre Socrate et Platon. Et je pense qu'elle dit déjà, elle répond déjà à la question. Selon les témoignages qu'on a, Platon allait concourir au concours de tragédie. Donc, il était déjà un poète qui se voyait un certain avenir. Il entend parler Socrate et il jette ses tragédies au feu. En disant « brûle-moi tout ça, Héphaïstos », etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que rencontrer
Héphaïstos,
Socrate...
Héphaïstos, le dieu du feu.
Le dieu du feu, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que rencontrer Socrate, c'est, en fait, entendre une parole qu'on n'a jamais entendue, une manière de questionner qu'on n'a jamais entendue avant. Donc, se retrouver dans l'urgence de changer de vie. Et moi, je pense que c'est encore ce qui se passe quand on rencontre la philosophie. Je sais que c'est peut-être pas une expérience universelle pour tous les élèves de première ou terminale, mais ça serait bien que ça le soit. Oui. À savoir que quand ils rencontrent la philosophie, ils rencontrent un langage, une manière d'approcher les mots, les concepts, les arguments de manière totalement insolite par rapport à ce qu'ils ont fait avant. Et en fait, je pense que entendre Socrate, c'était ça.
entendre Socrate, c'était ça, parce que quand on lit un dialogue pour la première fois, un dialogue de Platon, on peut avoir le sentiment que c'est une discussion entre un maître et son élève, que c'est le faire valoir toujours de Socrate, celui qui donne son nom au dialogue pour asseoir une forme de supériorité dans la connaissance. Et pourtant, Platon ne choisit pas cette forme par hasard, vous venez de le dire, et c'est absolument pas ce qui se produit dans le véritable dialogue socratique. Le dialogue représente la manière dont se déploie le mouvement de la pensée ou de l'effort pour penser. Chaque dialogue avec Socrate, c'est un événement, événement de pensée.
Oui, je pense que ça raconte exactement ça. Ce qui est fascinant, c'est que quand on décrit le dialogue comme vous venez de le faire, en fait, on parle du dialogue platonicien. Oui. Ce qui est extrêmement fascinant, c'est qu'en fait, au moment où Socrate a parlé, lui qui n'a rien écrit, il a parlé à tout ce qui se fait de mieux, les intelligences les plus fortes de son époque. Et chacun, après, s'est mis à écrire des dialogues socratiques. Et chacun même est rentré en compétition pour écrire des dialogues socratiques. Nous, la tradition textuelle faisant, les aléas de la transmission textuelle faisant, ce qu'on a gardé, c'est Platon et Xénophon. Mais déjà, rien dans la comparaison, on voit la différence qu'il y a. Donc, Platon, lui, il s'est approprié cette forme et il l'a portée à un degré de sophistication philosophique qui n'a jamais été en fait atteint après. Pourquoi ? Parce que justement, comme vous le disiez, il a fait non pas du dialogue une forme de conversation anodine, mais le chemin même, le mouvement même de la pensée qu'il cherche.
Alors, Dimitri Elmure, quelques mots qui caractérisent la méthode de Platon lorsqu'on dit que ce dialogue, c'est un exercice dialectique. Ah. C'est un mot qui revient systématiquement lorsqu'on parle de Platon. Et quand on s'initie à la philosophie, on découvre l'art de la maïeutique, l'art de l'accouchement. Expliquez-nous en quoi cette méthode aussi est révolutionnaire et en quoi philosopher ou penser, c'est une manière d'être dans un processus d'accouchement. Au fond, le philosophe est une sage-femme.
Oui, alors c'est le modèle qu'on trouve dans un dialogue de Platon qui s'appelle le thé-tête. Et c'est comme ça que Socrate conçoit lui-même sa propre pratique. Ça veut dire qu'au fond, tout un processus du dialogue socratique dans sa forme platonicienne, c'est de faire sortir de nous un certain nombre d'idées qu'on va tester. Et on va les éprouver. On va les éprouver, on va voir si elles sont saines, on va voir si elles résistent. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut les interroger, les examiner, examiner leur rigueur, les questionner en tous sens, les mettre en doute, etc., etc. Et à la fin, peut-être qu'on sera vide, peut-être qu'on sera rempli de rien. Mais rempli de rien, plutôt que d'être rempli du faux, c'est mieux. Et au moins, on peut commencer à désirer penser et à peut-être entrer sur le chemin de la vérité.
Parmi les concepts qu'invente Platon ou qu'il transforme, il y a le concept de lien. On peut relire toute la philosophie de Platon par ce concept de lien. Pourquoi ?
Alors, moi c'est, enfin, peut-être ça ne convaincra pas tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ma manière un peu de lire Platon. Ce qui m'avait beaucoup intéressé, ce qui m'intéresse beaucoup dans mes recherches quand je prends ce concept, le lien en grec, ça se dit desmos. Donc, je pense qu'il y a une desmologie chez Platon, c'est-à-dire un discours complexe sur le lien et les formes de lien. Et pourquoi ça m'intéresse et pourquoi je pense que c'est intéressant pour comprendre Platon ? C'est parce que Platon, évidemment, c'est un penseur de l'un et du multiple. C'est un penseur qui réfléchit au rapport entre l'unité et la multiplicité. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux grands prédécesseurs avant lui, Parménide, qui est un penseur de l'unité, et Héraclite, qui est un penseur de la multiplicité. Et en fait, il hérite des deux.
Bon. Mais là, pour Héraclite, le monde n'arrête pas de changer.
Exactement.
On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière.
Il n'y a que du multiple.
Voilà. Pour Parménide, il y a l'être.
Voilà, il y a l'être qui est un, indivisible, etc. Donc, il a vraiment ces deux, il en hérite. Et lui, justement, là où il est génial, c'est que il comprend, en fait, que le vrai problème, c'est les rapports entre l'un et le multiple. D'accord. Et les rapports entre l'un et le multiple, lui, il les voit sur le mode de l'unification. C'est-à-dire comment on arrive à unifier des multiplicités. Et de ce point de vue-là, il comprend que unifier une âme en conflit, en tension, c'est pas la même chose qu'unifier une cité. Elle-même, en conflit et en tension, c'est pas la même chose que comprendre l'organisation de l'univers, qui lui aussi est une multiplicité qu'il faut savoir ordonner.
Vous parlez de lien, on voit aussi souvent Platon comme le philosophe de la séparation, justement.
Ah oui.
Celui qui sépare l'âme de ses liens avec le corps. Il faut se détourner du monde sensible pour se tourner vers le monde des vérités éternelles, le monde de l'intelligible. Il y a un mythe qui est sans doute le mythe le plus célèbre de la philosophie, qui est l'allégorie de la caverne qu'on trouve dans le livre 7 de la République. Racontez-nous ce qu'elle enseigne, cette allégorie. Des hommes sont enchaînés dans une caverne depuis leur naissance. Ils n'ont jamais vu la lumière du jour directement. Ils n'ont jamais vu des choses et d'eux-mêmes que les ombres qui sont projetées sur les murs de la caverne par un feu qui est allumé derrière eux. Et ils ne peuvent pas tourner la tête. Que raconte cette allégorie-là ?
Alors, cette allégorie qui... peut-être l'image la plus célèbre de l'histoire de la philosophie. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse être plus célèbre que ça, qui a eu un impact colossal, de Platon à Matrix, hein, si on veut vraiment prendre un empan extraordinaire. Cette image raconte plusieurs choses, et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'elle raconte à la fois quelque chose de notre condition politique et anthropologique et de celle de notre âme quand elle n'est pas éduquée.
Oui, hein. Ça c'est l'homme enchaîné.
Voilà, exactement. Et elle raconte aussi une histoire particulière, qui est celle du philosophe, qui va se libérer de la caverne, on ne sait pas très bien comment, qui va en sortir, qui va voir la véritable source de lumière, qui ne rentre pas dans la caverne, à savoir le soleil, qui est l'analogue du bien, et qui va, extrêmement important, redescendre dans la caverne pour essayer de libérer ses anciens co-détenus. Vous voyez, c'est une histoire générale et une histoire particulière. C'est l'histoire de notre condition, dans les cités dans lesquelles on vit, dans lesquelles l'opinion dicte tout.
Et les illusions
sont
qui
partout.
Nous entourent, elles sont partout.
Absolument.
Et de là, on a tiré l'idée que Platon serait le contempteur du corps, avec une phrase qui est devenue quasiment un tube, je ne sais pas si vous appréciez le terme, mais de la philosophie comme dans la pop musique. Philosopher, c'est apprendre à mourir. On trouve la phrase dans le Phédon. Ouais. Il y a aussi l'idée que le corps est le tombeau de l'âme. Et puis, l'un des tableaux les plus connus au monde est au Vatican. C'est une peinture de Raphaël où on voit les deux figures majeures de la pensée antique. Et au centre, Platon, doigt vers le ciel, pour pointer d'où nous vient la connaissance, et à ses côtés, Aristote qui lui pointe le sol en référence au monde sensible. Est-ce que ce tableau est juste ? Et qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de Platon avec le corps ?
Alors, je commence par ce dernier point, le rapport de Platon avec le corps, et après je dirai un mot, si vous voulez bien, du fameux tableau de Raphaël. Le rapport de Platon avec le corps, effectivement, vous avez raison de dire que ça a souvent été une forme de caricature. C'est-à-dire, notamment en lisant le Phédon, où on apprend que philosopher, c'est apprendre à mourir, ce qui signifie que philosopher, c'est apprendre à délier l'âme de son corps, puisqu'en fait, un vivant a une âme et un corps qui sont liés, encore le lien, et que par conséquent, la philosophie est une lucis, en grec, c'est-à-dire une déliaison. Donc, effectivement, c'est comme la mort, puisque... qu'est-ce qui se passe dans la mort ? L'âme et le corps se délient. Mais c'est pas plus que ça. C'est évidemment pas se mortifier, se fouetter, se faire mal à son corps, parce que comme ça, on penserait mieux. En revanche, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une chose que moi, je trouverais, philosophiquement, à savoir que si les valeurs qui gouvernent, qui orientent nos vies, sont tournées vers un certain type de réalité et s'y résument, on peut pas véritablement penser. C'est-à-dire que penser, c'est aussi s'arracher à un certain moment de la réalité sensible. Pas parce que le sensible, c'est pas bien.
Oui. Ou
pas parce que, simplement parce que, au fond, l'exigence de la pensée, elle désire d'autres objets qui n'ont pas les propriétés du sensible. Ça veut pas dire que le sensible est mauvais, etc.
Et une incise d'ailleurs, il connaît l'importance du corps, Platon, puisque son nom même voudrait dire aux larges épaules.
Ouais.
C'était un lutteur de très grand talent. On dit même qu'il aurait participé aux Jeux Olympiques, qu'il aurait été récompensé. C'est donc un athlète qui connaît l'importance du corps.
Bien sûr. Et dans la République, il y a une éducation par la gymnastique. Et effectivement, vous avez raison. Vraisemblablement, il s'appelait Aristoclès. Platon est un surnom.
Oui.
Donc tout ça est vrai. Ceci dit, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur Raphaël.
Le tableau de Raphaël.
Moi, ce que je trouve fascinant dans le tableau, qui est évidemment célébrissime et extrêmement fort, c'est, vous vous souvenez, ce que chacun des deux philosophes porte sous le bras ? Parce que c'est ça qui est le plus fascinant.
Chacun porte un livre.
Chacun porte un livre. Platon, Timéo, le Timée de Platon, donc le grand livre sur la nature et évidemment sur l'astronomie, et Aristote, on devine, pour Éthica.
L'Éthique à Nicomaque.
Sans doute l'Éthique à Nicomaque. Voilà. Et au fond, ça permet de comprendre un peu mieux. C'est pas tant l'un regarde vers le ciel comme si le monde sensible n'existait pas, et l'autre disant « Ah, attention, il y a le sensible ». C'est plutôt l'astronomie et le fait même de regarder vers la structure de l'univers nous permet, en un certain sens, d'ordonner notre âme et de vivre une vie morale, éthique, philosophique, etc. Et Aristote qui dit « Oui, mais essayons aussi d'avoir une philosophie des choses humaines ». Donc, c'est pas le corps l'enjeu pour moi. C'est plutôt une forme d'orientation de la philosophie, et ça, c'est vrai. Il y a une connexion forte entre la cosmologie, le discours sur l'univers et la philosophie chez Platon, qu'Aristote, lui, va couper en deux.
Dimitri Elmure, il y a l'idée donc qu'il faut se tourner vers la vérité plus que vers toute autre chose. Et deuxième puissance de liaison de ce lien dont vous nous parliez, il y a la réminiscence. C'est aussi un mot qui est associé à Platon, un mot étrange, comme si tout savoir était un re-souvenir. Comme si l'acquisition de la connaissance était toujours une forme de reconnaissance. Pourquoi ?
Alors, c'est une idée géniale. D'abord, vous me demandiez en quoi Platon est révolutionnaire au début. Voilà un autre exemple. Il invente ce concept de anamnésis, c'est-à-dire de réminiscence. Il y a une manière, évidemment, un peu caricaturale de comprendre ça, consistant à dire, oui, notre âme, avant de s'incarner, a vu toutes les réalités, les fameuses idées, et quand elle s'incarne, elle oublie, et donc, au fond, apprendre, c'est essayer de se ressouvenir de notre condition prénatale. Bon, ça, c'est le cadre un peu du mythe, hein, puisqu'on parlait du mythe aussi.
Oui.
Ce que ça veut dire profondément, quand même, de manière un peu plus philosophique, c'est que le savoir ne peut être qu'intérieur. C'est ça l'idée géniale de Platon. Le savoir ne peut venir à l'âme que si celle-ci a le désir de le trouver, et donc, en fait, de le retrouver. Et qu'un savoir purement extérieur, appris par cœur, un élève dans lequel on déverse des connaissances, etc., si ce savoir n'est pas sien, s'il ne se l'approprie pas, c'est pas un savoir. Et ça, c'est une idée forte, quand même, qui vient avec la réminiscence.
Merci Dimitri Elmure, c'est passionnant à suivre. Platon, l'amour et l'amitié.